D'abord, je remercie Géraldine Aïda pour l'organisation et aussi, j'ai oublié les noms, mais toutes les personnes derrière qui s'occupent de réserver les billets d'avion, etc. Voilà, et je suis très content de venir parler aujourd'hui de l'école en lien avec l'imaginaire national, les processus d'inclusion et d'exclusion, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse, que j'ai soutenue il y a 4 ans. Et il s'est passé des choses depuis en Éthiopie, donc j'étais ravi de retravailler ces choses-là avec un, je dirais pas plus de recul, mais en tout cas selon une perspective un petit peu différente. Alors, vous avez peut-être entendu parler dans la presse des mouvements sociaux qui ont secoué l'Éthiopie depuis 2014. Vous vous souvenez peut-être de ce coureur de fond éthiopien qui, lors d'une compétition internationale, a passé la ligne d'arrivée avec les mains croisées au-dessus de sa tête pour symboliser les chaînes qui enserraient sa nationalité. On ne dit pas une ethnie en Éthiopie, on dit une nationalité, les Oromos. Et donc, numériquement majoritaire, les Oromos se considèrent comme opprimés, déconsidérés en Éthiopie. Mais à vrai dire, ce sentiment est partagé par toutes les minorités éthiopiennes et même par la majorité. C'est-à-dire tout le monde se considère floué, déconsidéré dans la nation. Depuis 1991, l'Éthiopie est un système fédéral. Alors, les chercheurs appellent ça fédéralisme ethnique, pas les Éthiopiens. C'est le fédéralisme des nations, nationalités et peuples d'Éthiopie. Donc l'idée, c'est que le pays est redécoupé en différentes régions, que vous voyez là sur cette carte, qui correspondent à des nationalités, c'est-à-dire des groupes linguistiques, en réalité. Donc voilà, c'est ça, ce fameux fédéralisme ethnique. Et depuis cette réforme en 91, l'identité est devenue le seul idiome politique audible en Éthiopie. C'est-à-dire que l'ensemble des problèmes ou tensions sociales, les enjeux de reconnaissance, certes, mais aussi les enjeux d'économie politique, de production, de redistribution des richesses, passent tous par le filtre de l'identité. Et quiconque parle un autre langage n'est pas entendu. D'accord ? Par exemple, bon, voilà, je vais faire court, mais le soulèvement des Oromos est dû à des problèmes fonciers. Voilà, en fait. Il y a un accaparement des terres par des sociétés internationales capitalistes, dirigé par l'État éthiopien, et les Oromos se révoltent. Mais ils se révoltent en tant qu'Oromos et pas en tant que paysans spoliés de leurs terres, alors que ce ne sont pas les seuls à être spoliés de leurs terres. Voilà. Donc, à travers les politiques linguistiques dont l'école a été le vecteur depuis les années 1940, je vais tenter aujourd'hui de comprendre la trajectoire de la communauté politique éthiopienne et d'éclairer, selon cet angle spécifique, les tensions politiques contemporaines qui traverse la nation éthiopienne. Alors, je vais d'abord introduire quelques considérations théoriques qui serviront de fil directeur à mon propos et qui ont trait à la nation, à l'école, aux langues d'enseignement et au processus d'inclusion et d'exclusion au sein des espaces nationaux. Alors, je rappelle rapidement quand même la définition d'Anderson sur les communautés imaginées qu'on mentionne souvent sans la citer. En gros, il dit « les nations sont des communautés imaginées » parce que même les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens, bien que dans l'esprit de chacun vive l'image de leur communauté. D'accord ? Ce qui veut dire que les nations sont en perpétuelle construction, qu'elles doivent être vivantes dans les esprits des membres qui la composent, prendre corps dans les individus, donc que la nation fait l'objet d'une pédagogie nationale constante, dont l'école est un des rouages centraux. D'accord ? La question des langues d'enseignement est cruciale à cet égard pour plusieurs raisons. Du côté de l'État, le choix d'une ou de plusieurs langues d'enseignement est fonction de sa politique linguistique nationale qui est déterminée par sa façon de concevoir la nation. Du côté de la société, les attitudes vis-à-vis des langues d'enseignement dépendent de la façon dont elles sont perçues, de leur statut ou valeur sociale, de leur contexte d'usage au quotidien ou dans le champ du politique, et des relations affectives aussi entretenues avec elles par leur locuteur. Dans le cas des politiques d'unification linguistique, là je cite Bourdieu, la langue officielle est la seule langue légitime, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire dans les contextes et dans les espaces officiels, école, administration, institutions politiques. Cette langue d'État devient la norme théorique à travers laquelle toutes les pratiques linguistiques sont objectivement mesurées. Ce qui veut dire qu'une seule langue est reconnue, les autres sont marginalisées et reléguées à un rang inférieur lorsqu'elles ne sont pas éradiquées. Au contraire, une politique officielle multilingue tend à déplacer la question du capital linguistique. En effet, bien que plusieurs langues soient promues au rang de langue officielle et légitime, toutes ne confèrent pas le même pouvoir et n'offrent pas les mêmes possibilités sur le marché linguistique, qui est un marché politique. D'accord ? Et là, le poids du passé dans les configurations historiques présentes est essentiel. Donc là, c'est l'historien qui parle. Donc, je traiterai ici des stratégies linguistiques mises en œuvre pour maintenir ou obtenir des positions de domination, ou au contraire, pour s'extraire de la marginalisation et gagner de la reconnaissance dans l'espace national. Les langues d'enseignement sont l'objet de luttes entre des acteurs dotés de capitaux linguistiques inégaux, placés différemment dans la distribution du pouvoir et agissant à des échelles distinctes. Institutions internationales, gouvernement fédéral éthiopien, administration régionale et locale, les élèves, les enseignants, leurs familles. En gros, la question, c'est comment est-ce que des rapports de pouvoir et des luttes pour son monopole s'articulent sur les langues d'enseignement ? Qu'apprend-on de la construction de la nation, de la construction de l'imaginaire national et des tensions internes au sentiment d'appartenance ? Donc, je vais diviser ma présentation en trois parties. La première, c'est le régime d'Haïlé Selassie. Je démarrerai après la Seconde Guerre mondiale, des années 40 à la révolution de 1974, où il a été renversé. Deuxième période, ce qu'on appelle le DERG, qui est un gouvernement marxiste-léniniste militaire, au pouvoir entre 1974 et 1991. Et ensuite, la période actuelle, depuis 1991, la période du fédéralisme dit ethnique. Alors, le régime d'Haïlé Selassie. Alors, sur la carte que vous voyez là, je vais me lever, je vais faire le conférencier américain. Alors, la carte, là, que vous voyez, en gros, l'Éthiopie, à la fin du 19e, s'arrête là. Voilà. Toutes ces régions-là n'y sont pas. Okay. Donc, l'empereur Ménélique a conquis toutes ces régions, voilà, vers le sud, vers l'est et l'ouest. Ces régions, on les appelle aujourd'hui le sud éthiopien. Donc, c'est des régions qui ne faisaient pas partie de l'Éthiopie, qui ne parlaient pas la langue éthiopienne, qui ne partageaient pas le christianisme orthodoxe éthiopien, qui est la religion officielle depuis le 5e siècle, 4e siècle. Donc voilà, des régions qui se considèrent colonisées. Donc ces régions ont été conquises. Le type d'organisation du pouvoir qui a été mise en place était une relation d'exploitation en fait pure et simple. Des terres ont été distribuées, les terres et les paysans qui les travaillaient ont été redistribués aux soldats de l'empereur éthiopien, donc en situation d'esclavage. Le seul objectif, en gros, c'était de contrôler le territoire et de ponctionner, parce que c'est là qu'il y avait l'ivoire, l'or, etc. Entre guillemets, c'est grâce à ces richesses que l'Éthiopie n'a pas été colonisée, puisqu'ils avaient un armement sophistiqué qui a permis de vaincre les armées coloniales qui ont tenté de les envahir. Donc bref, un type d'organisation du pouvoir dans ces régions qu'on peut comparer à une situation coloniale dans un pays non colonisé. À partir des années 1940, ça a changé. Il y a eu un objectif d'homogénéisation culturelle et de centralisation par Haïlé Selassie. Donc, sous Haïlé Selassie, la nation éthiopienne était définie de façon restrictive. Pour être éthiopien, il fallait parler l'amharic, donc la langue officielle du Nord, confesser le christianisme orthodoxe éthiopien et, de façon plus floue, se reconnaître dans l'idéologie de l'Empire éthiopien. L'empereur descend de la reine de Saba, du roi Salomon, etc., comme tous ceux qui écoutent du reggae le savent. Voilà. La politique linguistique et scolaire était double. Au niveau primaire, la langue d'enseignement était l'amharic, pour unifier. En 1944, un décret a obligé tous les missionnaires présents dans le Sud, qui avaient de nombreuses écoles primaires, à n'enseigner qu'en amharique et plus en langue locale, comme ils le faisaient auparavant. En 1954, un plan décennal pour l'éducation prévoit la diffusion massive de l'amharique au sein de la population, des populations non amharophones pour que l'amharique devienne la seule langue de tout l'Empire. Dans le secondaire, c'était l'anglais, j'y reviendrai. C'est parce que l'Éthiopie est un État client des États-Unis. Et il y avait cette idée qu'à travers l'anglais, on accède à la majorité de la littérature mondiale. Et il fallait aussi créer des élites des élites diplomatiques capables de compter à l'échelle internationale. Je reviendrai plus tard sur l'anglais, mais là, je veux me concentrer sur la question de l'amharique, parce que c'était la langue nationale et parce qu'elle a fait l'objet de luttes intenses pour son monopole. Alors, les populations conquises de ces régions du Sud avaient un rapport très ambivalent à l'amharique. Alors, il y a des expressions que j'ai recueillies sur mon terrain. L'amharique, la langue qui te punit. L'amharique, la langue qui te fait payer des taxes. Ça reflète clairement que le seul contact que ces populations avaient avec l'amharique, c'était avec le collecteur de taxes, évidemment, avec dans les cours de justice où ils étaient systématiquement perdants, et avec l'aristocrate venu du Nord qui venait avec sa bande armée pour qu'il fasse des travaux forcés. En gros, c'était le seul contact avec la langue amharique. Alors, 60 ans après, les gens s'en souviennent encore, donc c'est assez intéressant quoi, d'entendre tout ça. De leur côté, les aristocraties locales résistaient très fortement à ce que les paysans apprennent l'amharique. Là, je vais vous citer une phrase écrite par un directeur d'école de la région du Wolaita. C'est... Bon, bref, vous voyez Awassa, pas très loin d'Awassa. Une lettre qu'un directeur d'école a écrite en 1941 au ministère de l'Éducation. Je le cite. « Après avoir pillé sa terre et exploitant sans merci sa force de travail, les princes et aristocrates ne veulent maintenant pas que le peuple apprenne. Voici en résumé ce qu'ils disent tous comme un seul homme. Si nous faisons entrer les enfants des potiers, les esclaves, les forgerons, les tisserands et tous leurs semblables dans les écoles, nous libérerons nos esclaves grâce à notre savoir, grâce à notre langue, et nous les mènerons de l'ignorance à la lumière, à notre plus grand désavantage. Si les paysans apprennent, où trouvera-t-on des ignorants ? Ils se dressent tous ensemble contre moi en disant que ce n'est pas de leur intérêt. Notre pays est plein d'aristocrates qui considèrent que l'un doit être esclave de l'autre et que le peuple doit être gouverné par l'oppression. » Donc là, on voit clairement que les conquérants du Nord sont convaincus de la supériorité de leur civilisation, qui légitime à leurs yeux leur domination. Ils ont aussi compris que l'école était le nouveau moyen indispensable pour reproduire leur pouvoir. Ils souhaitent garder le monopole de la scolarisation pour qu'elle renforce les hiérarchies passées au lieu de les perturber. D'accord ? Et là, on a une contradiction interne au système d'Haïlé Sélassié qui est, il prétend homogénéiser, donc intégrer, mais sa structure même repose sur les distinctions, sur les marginalisations qui sont à la base des hiérarchies sociales. Je suis clair ou pas ? À partir des années 1950, ensuite, les populations rurales sont parties à la conquête des écoles et à la conquête de l'Amérique. Et l'objectif, c'était de quitter la marginalisation. Je donne l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Abébé Fola, et j'en ai rencontré d'autres dans son cas, qui m'explique qu'il est rentré à l'école après que son père se soit fait voler des terres par un colon et que lorsqu'il a porté plainte, il a perdu. Donc, ce monsieur Abébé Fola m'a dit « Mon père m'a dit, ils nous dominent parce qu'ils écrivent et parce qu'ils lisent l'amharique. » En gros, son père lui a dit « On va aller à l'école pour s'approprier les outils de la domination. » Dans les écoles, par contre, c'était assez compliqué. Les humiliations étaient quotidiennes. Par exemple, les gens de la région du Wolaita dont je vous ai parlé ne savent pas dire le son « ba », qui est le son de la première lettre amharique. Ils disent « ba ». Donc, régulièrement, on leur disait « C'est pas ba, c'est ba. Ba, c'est la langue des animaux, la langue des moutons. Ce n'est pas la langue des humains. » Donc voilà, ce type d'humiliation, de ravalement à l'animalité. On leur changeait leur nom, évidemment, etc. Et jusqu'à la fin de la Révolution, il y avait des conflits très très durs dans les écoles. En 1970, par exemple, dans l'école de... Alors, la ville n'est pas écrite, mais c'est aussi du côté d'Awassa. Il y a eu une bataille rangée entre deux groupes d'élèves qui s'est soldée par 4 morts. Cette bataille rangée était entre les élèves des enfants des colons et les élèves des paysans. Ce sont les enfants des paysans qui ont provoqué la bagarre parce que les enfants des colons leur disaient « Vous n'avez rien à faire dans ces écoles, vous êtes là pour nous servir, ces écoles sont pour nous. » D'accord. Voilà. Donc vous voyez, là on a une autre contradiction. Cette contradiction, c'est entre une école qui se veut intégratrice, mais qui, dans la pratique, dresse des barrières aux personnes même qu'elle prétend intégrer. Ce pourquoi ? Parce qu'elle est imbriquée avec le système politique. D'accord. Alors là, je passe au... J'en suis où dans le temps ? À la moitié. Ah, super. Alors, en 1974, il y a une révolution en Éthiopie. Là, Haïlé Sélassié a été renversé en partie par un mouvement étudiant marxiste-léniniste. Je passe les événements. On se souvient avec raison de ce régime communiste, le DERG, donc D-E-R-G, comme d'une dictature sanguinaire. C'est l'époque des grandes famines, des guerres civiles, etc., des déplacements forcés de population. Très bien. Il faudrait être un peu bête pour nier ça. Il n'empêche que sur la question de l'identité et de la définition de la nation, ce régime a constitué une ouverture. Les militaires ont souhaité un nationalisme séculier, débarrassé des limitations et discriminations religieuses, sociales et culturelles qu'il avait restreint par le passé. Donc, dans la continuité du mouvement étudiant éthiopien à qui il a volé la plupart de ses idées après l'avoir massacré, le DERG a dénoncé l'oppression subie par les nationalités du Sud sous l'ancien régime et annoncé leur promotion au sein de la nouvelle Éthiopie socialiste. Donc les nationalités se sont vues, quand je dis les nationalités, je veux dire les anciennes nationalités opprimées, les non-Amaras. Okay. Donc elles se sont vues accorder de la reconnaissance, en particulier à travers l'éducation. En 1982, l'Institute, je vais essayer de le dire en français plutôt, l'Institut de recherche sur les nationalités du Sud a été créé. L'objectif, c'était de recueillir les traditions orales, etc., de toutes les populations éthiopiennes pour créer une culture éthiopienne, on va dire, issue de l'ensemble du pays. Donc ils ont récolté les traditions orales, ils ont mené un travail linguistique, créé des lexiques, essayé de mettre au point des grammaires, etc., sur les langues des pays du Sud. En termes d'éducation, deux politiques ont été absolument décisives. La première, c'est la campagne d'alphabétisation. Et la deuxième, c'est la construction massive d'écoles primaires dans toutes les campagnes. Alors, la campagne d'alphabétisation a été menée dans 14 langues, dites locales, ce qui équivaut aux langues de 95% de la population éthiopienne. Ces langues ont été mises par écrit en syllabaire amharique. Je suis vraiment désolé, j'avais prévu de... Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, vous voyez l'hébreu, c'est à peu près ça. Toutes les langues ont été mises par écrit en syllabaire amharique. Voilà. Pour faciliter en fait le passage de la langue locale à l'amharique, c'est-à-dire à travers cet alphabet. Entre 1975, le début de la campagne, et 1985, 12 millions de personnes, femmes et hommes, sur une population d'environ 30 millions, ont reçu leur certificat d'alphabétisation. D'accord ? Donc c'est vraiment une campagne, quand je dis de masse, c'est de masse. En fait, c'est simple, tous les étudiants, les élèves du secondaire et tous les étudiants de l'université étaient obligés de partir 4 mois dans les campagnes, sans quoi ils n'avaient pas leur diplôme. Donc voilà, oui, c'est ça le truc. Un peu comme le service militaire en France, quoi. Si on ne l'a pas fait, on ne peut pas travailler pour l'État plus tard, quoi. Donc, mais en dépit de la mise en avant des langues locales, l'amharique a avancé à ce moment-là. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que mettre par écrit, créer des manuels dans toutes les langues, c'est un travail colossal que l'État n'a pas pu accomplir. Deuxièmement, les enseignants, même s'ils venaient du Sud, avaient été scolarisés en amharique, donc ils n'étaient pas du tout à l'aise avec leur propre langue, y compris pour l'enseigner. Deuxièmement, parce que les populations, alors là on rejoint quelque chose de très classique, ne voyaient pas trop l'intérêt d'apprendre à lire et à écrire pour apprendre leur langue. Voilà. Donc en fait, les manuels en langue locale ont été renvoyés à Addis Abeba et les populations ont réclamé d'apprendre l'amharique. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'apprendre l'amharique, ça permet de rentrer dans l'espace légitime de la nation. Quand on parle amharique, on nous entend. Si on ne parle pas amharique, on ne nous entend pas. Voilà. Et alors ensuite, des écoles primaires dans chaque canton, je l'ai dit tout à l'heure, et là, on a eu un mouvement massif, vraiment vers les écoles, où le taux de scolarisation dans les campagnes est passé de 10% à 60%, quoi, dans l'espace de 14 ans. Donc l'école publique, quoi, est restée un instrument d'assimilation, mais par contre, les exigences quant à la maîtrise de l'amharique se sont faites moins contraignantes. Je parlais tout à l'heure d'humiliation. Elles n'avaient plus lieu d'être, en fait. À l'époque du communisme, n'importe quel enseignant qui s'amusait à humilier un élève issu d'une population du Sud se faisait taxer de féodal et pouvait en fait carrément aller en prison. C'était devenu totalement inacceptable. Par ailleurs, le nombre d'enseignants d'origine locale s'est multiplié. Les élèves d'avant sont devenus les enseignants. Donc il y avait une plus forte proximité entre les enseignants et les élèves. Bref, l'école s'est faite bien plus accueillante pour ceux pour qui l'amharique n'était pas la langue maternelle. Donc la contradiction que j'ai donnée tout à l'heure entre une école qui se veut assimilatrice mais qui dresse des obstacles a été levée en quelque sorte. Donc sur ce, en 1991, le derg a été renversé par des groupes militaires et par des partis organisés sur des bases ethniques. Je hais ce mot en fait, mais je suis obligé de le dire. Sur des bases, on va dire, des nationalités. Donc le derg a été renversé et à ce moment-là, donc le pays a été réorganisé, non plus sur l'idée d'une nation composée de toutes ces nationalités, mais d'une mosaïque en séparant les différentes nationalités. Donc là, en gros, le système scolaire a été un instrument emblématique de cette politique, et là a été décidé l'école, l'éducation en langue locale, mais dans les écoles formelles, plus dans la campagne d'alphabétisation. Les régions avaient le choix entre choisir l'amharique ou leur langue locale. La plupart ont choisi les langues locales. Par contre, toutes ces régions-là, situées au sud de l'Éthiopie, ont choisi de mettre leur langue en alphabet latin. Il y avait deux arguments. Premier argument, c'était directement contre l'amharique, qualifié de langue d'oppression. Clairement contre l'amharique. Deuxième argument, faciliter le passage cette fois à l'anglais et non à l'amharique, comme c'était le cas avant. Ouais, parfait. Alors là, sur le terrain, j'ai fait pas mal d'entretiens. Alors au début, je suis arrivé dans les bureaux de l'administration. Donc j'ai demandé aux administrateurs, alors voilà, comment ça se passe, l'éducation en langue locale. Et là, on me dit, ah mais l'éducation en langue locale, c'est vraiment super, on est enfin reconnu dans la nation. Les paysans en avaient assez de l'amharique. Là, maintenant, on est reconnu, on parle dans notre langue, c'est génial. Voilà, c'est génial. Et en fait, je suis allé, alors là, j'ai fait plein d'entretiens, puis ils se répétaient, donc j'ai arrêté d'en faire. Je suis allé à la campagne et premier paysan me dit « Ah non, l'éducation en amharique, c'est vraiment un scandale. L'éducation en langue locale, c'est vraiment un scandale. On ne parle plus amharique, on n'a plus de boulot. On n'arrive plus à travailler quand on a fini nos études. » Donc là, j'ai vu un clivage très très clair, un clivage de classe en fait, entre ceux qui avaient un capital scolaire fort et en gros, les seuls qui défendaient l'éducation en langue locale, c'était ceux qui parlaient amharique et anglais couramment. D'accord ? Alors, ça peut se comprendre de différentes manières. Ça peut être une stratégie de monopole, de monopolisation de la culture légitime. On se garde le pouvoir pour nous. Nous sommes les intermédiaires obligés entre les paysans et l'État, et les seuls intermédiaires, ceux qui nous confèrent du pouvoir. Après, moi, j'ai un peu du mal avec ces interprétations qui vont faire des acteurs, des gens cyniques et calculateurs, parce que, bah, je vais parler un peu familièrement, mais c'est des gens chouettes, ces gens. Moi, enfin, c'est même mes amis, quoi, en fait, certains. Donc voilà, ils sont pas cyniques. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que déjà, le décalage ville-campagne, il est énorme. Donc ils ne connaissent pas spécialement les paysans tout en pensant les connaître. Et ensuite, c'est eux qui ont vécu un passage, une... J'aime pas le mot acculturation, mais c'est eux qui, en apprenant l'amharique, ont souffert à leur époque. Ils ont vécu certains des traumatismes, et quand ils en parlent, ils ont 75 ans, ils en tremblent un peu des fois, quand ils parlent de leurs enseignants qui les insultaient, etc. Donc ils ont vécu ce traumatisme. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils défendent l'éducation en langue locale. Les paysans n'ont pas vécu ce traumatisme. Vous voyez ? Parce que, où j'en suis ? Non, ben voilà, c'est ça. Et donc... voilà, donc les paysans défendent l'éducation en amharique et les élites locales défendent l'éducation en langue locale. Et là, aujourd'hui, cette question n'est toujours pas réglée. Et le point qui me semble important, c'est que j'aime bien les contradictions, c'est qu'en fait, la reconnaissance culturelle... En fait, les paysans, en 91, étaient contents de l'éducation en langue locale. C'est dès qu'ils ont compris qu'être reconnus culturellement s'accompagnait d'une marginalisation encore plus forte... Parce que l'accès à d'autres ressources, des ressources économiques, des ressources symboliques, leur était fermé. Voilà. Vous voyez, c'est clair, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, très bien. Et ça montre aussi comment, finalement, l'idiome de l'identité, même lorsqu'il se prétend égalitaire, invisibilise d'autres formes de domination, ici la domination de classe. Alors, je conclue, vu qu'il me reste 2 minutes, sur des questions générales sur les statuts et les usages des langues d'enseignement et sur les multiples positionnements des acteurs à leur égard. Et mes deuxièmes questions générales seront sur les usages de la mémoire et de l'histoire. En fait, on se rend compte que les positions politiques sur les langues d'enseignement se recoupent et changent dans le temps. Et elles peuvent être contradictoires au même moment. Elles ne sont pas simplement évolutives. C'est pourquoi il est nécessaire d'être souple. Car les tensions entre une langue qui va être une langue d'oppression, une lingua franca, ou une langue comme une ressource politique, est insoluble en soi. Si l'on se place à l'échelle de la théorie, comme le fait l'UNESCO, la Banque mondiale ou le gouvernement éthiopien, on peut émettre des généralités. D'accord ? Dire c'est mieux la langue maternelle parce qu'on apprend mieux, et des choses comme ça. Mais si on se place en contexte, c'est bien plus compliqué. Et comme j'espère l'avoir montré, une politique de reconnaissance culturelle peut se traduire par de nouvelles formes de marginalisation en limitant l'accès à d'autres types de ressources. Et les populations ont des relations complexes avec les langues auxquelles elles sont exposées. Elles tiennent compte de leurs relations affectives avec elles, notamment sur des critères identitaires, mais aussi sur ce qu'elles permettent en termes de ressources sur un marché linguistique et un marché politique. Et ces registres peuvent se contredire au même moment. Il n'y a pas besoin de chercher une solution, en fait. Et de fait, les positions tranchées, à mon sens, reflètent le plus souvent les intérêts politiques de groupes particuliers, créateurs de clivages pouvant être destructeurs, comme c'est le cas, je pense, aujourd'hui en Éthiopie, où, à l'heure où je vous parle, il y a des massacres, où des milliers de personnes se font massacrer. au nom de l'identité. Même si vous l'avez peut-être vu dans la presse, il y a un premier ministre vraiment, qui est vraiment un gars chouette, qui joue l'apaisement, etc. La société est extrêmement en tension. Je pense aussi qu'il faut distinguer le pédagogique du politique, c'est-à-dire que les positions se plaçant sur le plan du cognitif, on apprend mieux en langue maternelle, ça permet ensuite d'apprendre une autre langue, peuvent être désastreuses politiquement et causer des formes de violence symbolique, voire physique extrême, surtout lorsque les langues sont pensées les unes contre les autres. Je ne défends pas une position nationaliste cherchant à tout prix l'unité de la nation, mais je veux juste souligner que le fédéralisme dit ethnique mis en place en Éthiopie a été efficace pour le parti au pouvoir en divisant pour mieux régner. Désolé pour le proverbe, mais c'est le cas. Et que le fédéralisme, supposé bénéficier aux populations marginalisées par le passé, a été capturé par leur profit par les élites régionales. Peut-être que la solution réside dans le fait de cesser de placer les langues les unes contre les autres. Et c'est là où on en vient à la question de la mémoire, des usages du passé, de la mémoire au sein des nations. J'ai dit que l'amharique a été rejeté parce qu'il est considéré comme une langue d'oppression, alors que c'était aussi une langue ressource. Mais pour les élites locales, c'est une langue d'oppression d'abord. Donc là, il y a deux choses quand on se remémore du passé. On peut reconnaître une oppression passée, l'oppression passée de groupes spécifiques, on pense à l'esclavage ou des choses comme ça, groupes spécifiques qui sont toujours dominés dans le présent, à des fins égalitaires ou de justice sociale, pour créer une nation inclusive. Très bien. Mais il y a aussi des cas d'instrumentalisation du passé qui provoquent des tensions, pouvant aller jusqu'au massacre, aux guerres civiles, etc. Donc, de quoi faut-il se souvenir ? Et que vaut-il mieux oublier ? C'est-à-dire, j'ai fini, dernière phrase, sur quel point d'ancrage fonder l'imaginaire national pour une conception à la fois riche et inclusive de la nation ? Et là, je ne l'ai pas dit, mais j'ai tout simplement cité Gyanendra Pandey dans son article, magnifique article, qui s'appelle « La défense du fragment ». Voilà, merci.